portrait d'association.
Portrait d'association.
À la découverte des associations du territoire sur RDY.
Portrait d'association.
107.5 FM et 101.7 est réécoutable aussi en podcast sur le site rdwa.fr. RDWA.
Portrait d'association.
Vous êtes bien sur RDWA, la radio du DIWA, 101.7 ou 107.5 FM. Et aujourd'hui, je reçois dans le studio de Luc en DIWA Aurélien Etiévant. Salut Aurélien.
Salut.
Alors Aurélien, tu es jongleur et tu fais partie de la compagnie Les Colporteurs de Rêves. C'est une compagnie de spectacle composée de trois artistes, saltimbanque des temps modernes, c'est comme ça que vous vous décrivez. Vous êtes trois comédiens, musiciens et jongleurs du coup, bien sûr. Est-ce que tu peux me dire, Aurélien, qu'est-ce que c'est que ces rêves que vous transportez, que vous colportez ?
Bah, c'est des rêves qu'on colporte depuis un certain temps, parce qu'on existe quand même depuis 20 ans. Et quand on a commencé, nous à la base, enfin, en tout cas moi et un autre de mes collègues, on venait de l'animation, de l'éducation populaire en fait, tout simplement. On accueillait des classes découvertes dans des structures en montagne, en Savoie, et on créait des spectacles chaque semaine pour eux. On travaillait avec des intervenants, cirque, théâtre et tout. Et c'est vrai qu'à force de jouer pour eux chaque semaine, chaque mois, chaque année, parce qu'on est resté là-bas quelques années, on a pris un goût immense en fait à faire des spectacles et surtout à voir les yeux des enfants, tu vois, qui s'ouvrent, qui brillent, qui vibrent, qui rêvent, tu vois. Donc suite à ces années-là, on s'est dit qu'on allait monter une compagnie, puis qu'on verrait bien ce que ça donnerait, et qu'on a fini par appeler donc l'école porteur de rêve. À la base, on jouait vraiment pour les enfants, pour le jeune public. Le trip, c'était vraiment de faire rêver les petits. Et puis, après, les temps ont passé et voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire aussi rêver tout aussi bien, même si c'était d'une manière différente les adultes. Donc, on est passé à des formules vachement plus tout public, même si on reste aussi dans le jeune public, ça dépend des spectacles. Voilà.
Et de les faire rêver comment, du coup ?
Les faire rêver comment ? Les faire rêver déjà en tchatchant, en parlant, en les faisant rire. Et puis, quand on parle du rêve vraiment de l'enfant, ça veut dire que nous, on part sur des formules de spectacle qui sont des, on va dire, c'est un peu réducteur, mais des contes-spectacles. C'est une histoire qui est racontée et qui va être mise en scène de manière dynamique, festive, hyper interactive, entre théâtre, cirque, musique, tu vois. Et un enfant qui rentre là-dedans, nous, on essaye de faire nos spectacles comme si c'était des dessins animés. Même au niveau théâtre, on ne s'impose pas trop de codes parce que ça peut être, on pense, vraiment réducteur de se codifier théâtralement. Le but, c'est de faire triper les enfants, vraiment. Bon, tu peux faire triper les enfants de plein de manières différentes. Mais on essaye de créer nos spectacles à la fois pour les enfants, tout en se disant que si les adultes n'aiment pas, c'est que le truc n'est pas bon non plus. Et le résultat final, on essaie de donner ouais, vraiment une espèce de dessin animé, une espèce de truc qui bouge à fond, avec des personnages, des trucs, et toute une histoire, en fait, qui va faire... dans le but est de faire vibrer les gamins, quoi. Vraiment.
Aujourd'hui, tu es venu tout seul, mais là, depuis le début, tu parles de plusieurs personnes. Vous êtes donc trois, comme je le disais au début.
Ouais.
Qui sont ces trois personnes ?
On est même un peu plus de trois, en fait. On est toujours trois sur scène dans les spectacles. Après, on est quand même une équipe de cinq comédiens. C'est-à-dire qu'il y a certains spectacles qui ont des équipes différentes, tout simplement. Moi, je suis toujours... José et moi, on est sur tous les spectacles. José, c'est mon collègue depuis 20 ans, qui est violoniste, musicien, comédien, avec qui je travaille depuis très très longtemps, qui fait partie des colporteurs depuis 2005, depuis quasiment le début. Et donc avec José, on est sur tous les spectacles. Et puis il y a Julien, il y a Clément et il y a Claude qui nous rejoignent sur d'autres spectacles, sur certaines créations. Eux, ça tourne un petit peu, on va dire. Voilà. Après, les colporteurs de rêve, c'est surtout des musiciens, comédiens, saltimbanques, comme on disait. On a une grosse habitude de travailler dans la rue aussi, de jouer dans la rue, de jouer vraiment au contact des gens dans des événements qui sont gratuits, accessibles à tous. On aime faire tourner nos trucs aussi dans les quartiers, dans les endroits où la culture n'est pas toujours ultra favorisée, en fait, pour plein de raisons. Mmh. Donc voilà. Après, c'est que des mecs qui sont en lien, on va dire, et en osmose avec les valeurs des colporteurs, quoi. C'est-à-dire faire péter la scène, envoyer un maximum, rassembler les gens, les faire sauter en l'air, et puis essayer de passer de bons moments ensemble dans ce monde qui n'est pas toujours évident, quoi.
Toutes ces personnes-là, tu parlais de vos débuts dans le domaine de l'éducation populaire. Toutes ces personnes-là, vous vous êtes tous rencontrés en 2005 dans ce domaine-là ?
Non, pas du tout. En fait, moi, je faisais de l'éducation populaire et j'étais dans des structures comme ça avec un mec qui s'appelait Jérémy, qui est en Bretagne aujourd'hui, qui on reste en lien, mais qui joue plus avec nous. On a monté l'école porteur de rêve ensemble et puis très vite, on a rencontré José, on a rencontré Clément, qui sont encore aujourd'hui ici, donc 2 ans après, parce qu'on a monté l'école pour en 2003 et j'ai rencontré les deux autres en 2005. On a commencé très vite à faire de la rue ensemble, avec José, avec Clem, à créer des spectacles un petit peu chacun de notre côté. Et puis, ils sont rentrés dans l'équipe, ils ne sont jamais ressortis, quoi.
Tu parles de plusieurs valeurs qui structurent votre travail.
Ouais.
À ce sujet-là, je vous propose d'écouter un petit extrait de « À la ville comme à la scène ». On écoute tout de suite.
on arrive de loin aujourd'hui,
car on compte bien mettre au tapis
les inhibitions, les dédains qui t'éloignent de ton voisin.
La peur et la timidité
font la première précarité.
Quand tu es prêt à échanger, tout peut changer, il paraît.
On fera pour ça ce qu'il faut,
en ciblant tous les ciboulots,
jusqu'à s'en faire mal au crâne.
Mais comme les frères Amokrane, on fera pas d'arrangement
pour rassembler un max de gens.
Quand tu resteras pas de glace, c'est juste en face.
Prépare-toi à nous voir le baguette, ton entourage,
même s'il se cache.
On est prêt à jouer dans tous les parages,
même à l'arrache,
sans artifice,
on criera
la même rengaine
sur tous les toits pour qu'on finisse chaque fois à la ville comme à la scène.
On va pas aller déguiser
ni nos sapins ni nos idées.
Rien ne vaut l'effarante efficacité de la sincérité.
On ne se maquillera pas non plus,
ni sur les planches ni dans la rue.
Des compassions ne vont chanter nos amours perdues.
Y'en a tellement. Quant à tous les codes de conduite,
nous les remiserons au plus vite.
On placarde notre insolence,
qu'importe
les sentences.
Pourquoi asseoir nos opinions
dans la plus pire des traditions?
Pourquoi toujours les mêmes coupettes aux mêmes bouffons?
Alors prépare-toi à nous voir le bug et ton entourage,
qui se cache.
On est prêt à jouer dans tous les parages,
même à l'arrache,
sans artifice,
on criera
la même rengaine
sur tous les toits
pour qu'on finisse
chaque fois à la ville comme à la scène.
À la ville, à la scène, à la scène, à la ville.
Alors, vous y parlez de rassembler un max de gens, de cibler tous les ciboulots, ce qui pour moi traduit l'envie de cibler un public très très large. Pourquoi ouais. C'est important pour vous?
C'est juste important pour nous. Déjà, on s'estime être vraiment des saltimbanques. Quand on dit saltimbanque du temps moderne, c'est pas nous qui avons inventé ces formules-là. Mais le côté saltimbanque, il existe depuis hyper longtemps, il a toujours existé. Nous, on est là, dans un monde moderne qui part dans tous les sens. Le but, c'est vraiment de rassembler tout le monde. Le but vraiment général, l'objectif à chaque fois, c'est que les mecs en costard, ils sautent avec les mecs en n'ont pas, que les gens soient ensemble autour de nos valeurs à nous, qui sont des valeurs de partage, solidarité, tolérance, d'ouverture. Maximum. Voilà. Donc après, cibler un public large, c'est... On aurait l'impression aujourd'hui dans le monde que la culture n'est même plus adressée à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus cher d'accéder à quoi que ce soit, même une place de cinéma, tu vois. Donc nous, le but dans tous nos projets, dans tous nos spectacles, dans les endroits où on travaille et où on va jouer, ouais, le but, c'est d'essayer de pouvoir vraiment jouer pour vraiment tout le monde. Donc souvent assez gratuitement, souvent de manière à ce que tout le monde puisse venir, en fait, tout simplement. D'où l'importance de la rue, en fait. Parce que la rue, il y a plein de gens qui arrivent, qui n'étaient même pas censés venir au spectacle, puis qui passent devant, puis qui s'arrêtent, puis qui tripent, et puis qui rigolent avec nous, et puis c'est bien.
Par ailleurs, là, vous parlez notamment du fait de faire participer la foule.
Ouais.
Comment vous y prenez? Vous avez des trucs pour faire participer
les gens?
Ouais,
on a des trucs. Ouais, on a des trucs et des
Par
habitudes.
Exemple.
Bah, quand on joue avec les enfants, on va toujours instaurer une interaction la plus forte possible, en leur posant des questions, en s'appuyant sur leurs réactions pour continuer à faire monter le rêve et le spectacle. Avec les adultes, ça va être autre chose. Avec les adultes, ça va plus être essayer de les emmener au maximum, de manière à ce qu'ils se lâchent un petit peu. Et ouais, on leur fait faire des farandoles, on les fait sauter en l'air, on les fait danser, on les fait se rencontrer, on les fait valser avec des inconnus. Donc ouais, on a des trucs et des habitudes. Avant, on finissait toujours nos spectacles par une farandole, une grande farandole. Tu vois. Et ça marchait vraiment à tous les coups. C'est exceptionnel quand mille fois, ça n'est pas vraiment marché. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'on y met tellement d'énergie qu'ils doivent sentir qu'il faut y aller et qu'ils n'ont pas le choix. Après, avec le Covid, la farandole, ça a été super marrant. On a dû la réinventer. On a fait une autre formule qui marche toujours aussi bien. Puis maintenant, on ne sait plus si on fait une farandole ou une autre nouvelle formule. Mais les gens, ils ont envie, en fait, d'y aller. Souvent, même moi, je suis dans des concerts, des fois, ou dans des spectacles. Je me dis, si j'étais à la place des gens que je pousse un petit peu là quand je suis sur scène, je serais peut-être pas toujours hyper à l'aise, quoi, tu vois. Et c'est pas si facile quand même d'aller participer à un truc, mais si on t'y amène, si quelque part on te laisse le choix d'y aller ou pas, ça finit par se faire. Je sais pas, c'est un plaisir de vivre des trucs vraiment ensemble, quoi.
Et puis ça implique aussi un dégagement d'énergie assez faramineux. Enfin, là,
ouais,
on n'avait pas les images, mais dans les vidéos, on vous voit gesticuler dans tous les sens.
Oui, c'est ce qui nous caractérise un petit peu. Ouais. Après, on vieillit, du coup, on est en train
de
descendre un peu. C'est pas qu'on bouge moins, c'est même pas par obligation, en fait. C'est juste qu'on se rend compte qu'on peut aussi peut-être jouer un peu différemment et tout. Moi, ça me concerne vraiment, moi, la surénergie. Tu vois, les mecs du théâtre, qu'on appelle les cultureux, tout ça, ceux qui sont tous en gros code théâtraux, là, ils vont souvent me dire, enfin, avant, peut-être aujourd'hui, un peu moins, que je joue en surénergie, tu vois. Moi, ça m'a toujours un petit peu dépassé parce que je jouais comme ça, parce que j'avais envie de jouer comme ça et je prenais du plaisir à jouer comme ça. Et je voyais quand même pas mal de monde qui prenait visiblement pas mal de plaisir à me voir me donner à fond, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, je suis sur scène pour me faire plaisir et je pense que tout le monde peut y aller sur scène, vraiment.
Cette énergie, vous la mettez aussi dans le fait de bouger, enfin de bouger au sens géographique du terme, on va dire, dans la vidéo, dans la musique. On vous entend parler du fait installée dans tous les parages. Vous avez effectivement vachement bougé en France. Et je me demandais, est-ce que c'est une caractéristique de votre métier ou est-ce que c'est que particulièrement vous avez la bougeotte et vous avez eu envie de vraiment de quadriller la France et l'étranger ?
Je sais pas, c'est une... ça fait déjà partie du travail, je pense. Après, il y a des artistes qui arrivent à tourner vachement local aussi, parce qu'ils ont envie de faire comme ça. Nous, avec les années passant, on commence à essayer de privilégier un petit peu, de faire moins de kilomètres quand même qu'avant. Après, non, je sais pas, nous, on était dans un délire, on a monté les colporteurs, on savait pas... L'objectif, c'était pas forcément d'en vivre à la base ou quoi, d'être intermittent, tout ça. On faisait ça vraiment par plaisir, avec nos boulots à côté. Très vite, il s'est impliqué que, ouais, ça valait le coup, peut-être d'essayer de faire que ça. On l'a fait, ça a fonctionné. À partir de là, les mecs qui nous appelaient, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, on hallucinait quand des mecs nous appelaient, étaient prêts à nous payer pour qu'on aille jouer, je sais pas où, à 600 km de chez nous, alors qu'ils nous avaient jamais vus, ils avaient juste entendu parler de nous. Donc nous, ça nous faisait vachement délirer, en fait, de quadriller comme ça le terrain, d'aller de partout, d'essayer de faire connaître le truc et la compagnie le plus possible. Donc ça passait par des déplacements. Après, on a fait plein aussi, toujours dans le même objectif, de projets solidaires en Afrique, en Amérique centrale, de création de spectacles avec les gamins des rues, tout ça. Toujours dans le même en fait, délire de rassembler, de confronter les cultures et d'en sortir le mieux de ce qu'on peut sortir. Quoi. Parce que quand deux cultures se mélangent, si on s'y prend bien, qu'on a un peu de tolérance, on fait des trucs bien, normalement.
Ouais, vous êtes effectivement allé jusqu'au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Amérique centrale, ouais. Dans des projets qui ont été autofinancés. Donc, ce n'était pas des projets qui vous rapportaient de l'argent. Là,
non.
Tu parlais du fait de gagner sa vie, finalement.
Ouais, non, il nous en coûtait du temps, parce qu'il fallait les financer, effectivement. On a... tout un délire d'indépendance quand même qu'on aime essayer de garder. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais tourné aux subventions, par exemple. Ceux qui le font, il n'y a aucun souci, c'est juste un système qu'on a à nous. On estime être une grande famille, chacun donne aussi vachement de soi pour la famille, tu vois. Et ces projets, oui, il a fallu les financer. Alors pour un, on avait obtenu quelques subventions, effectivement, mais c'était exceptionnel. Donc ouais, nous, on allait jouer, et puis les cachets, on les gardait pour ces projets, enfin, on se débrouillait pour les financer, ouais.
Actuellement, vous en vivez tous de votre travail ?
Oui, oui, largement, oui. Très bien et c'est chouette.
Dans ces projets qui vous ont amené du coup finalement, alors peut-être pas aux quatre coins de la planète, mais en tout cas de l'Amérique centrale à l'Afrique, qu'est-ce que toi ou qu'est-ce que vous en avez tiré ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas ?
L'éventail serait trop long à faire. Comme tout long voyage, loin de chez toi, dans une zone de confort qui n'existe plus, tu apprends forcément plein de choses sur toi, sur les collègues qui tu es, sur le monde, sur... Tu te confrontes à des misères quand même terribles. Tu te confrontes à des façons de vivre complètement différentes de la tienne, à des habitudes hospitalières complètement différentes de celles de ton pays, à des possibilités, quand tu prônes de l'artistique, d'être complètement libre et de faire ce que tu as envie. Donc, je sais pas, on a tiré ce que tous les gens, je pense, tirent de longs voyages ailleurs qu'au Club Med, quoi. De longs voyages où tu te retrouves dans les populations, avec les populations, à travailler avec les populations, donc à échanger avec eux. Je sais pas, c'est quand même assez fantastique, assez fabuleux. Et puis, il y a des côtés où la vie est tellement pas facile des fois là-bas que tu es aussi content de rentrer dans ton pays au bout de quelques mois, quoi. Mais ce qu'on a appris, je sais pas, artistiquement, on s'est sûrement enrichi parce que là-bas, on a appris aussi d'autres techniques, sans doute musicales, acrobatiques. On a vu des manières différentes de fonctionner dans les ateliers de création de spectacles avec les enfants. On a travaillé avec les animateurs, les éducateurs africains ou quoi. Bon. Donc, on en retire forcément plein de choses. Ouais.
Vous y avez également laissé un bagage, puisque dans plusieurs projets que vous avez menés, l'idée, c'était de pérenniser ensuite une pratique, de faire en sorte qu'elle dure, que ce ne soit pas juste un one-shot une fois et puis on s'en va.
Oui, tout à fait. Ça s'est plutôt pas mal pérennisé en Afrique. En Amérique centrale, au Nicaragua, c'était un petit peu plus compliqué, même s'il y a eu une pérennisation, mais il y a eu un échange, on va dire, peut-être moins fructueux et moins facile qu'au Burkina ou qu'au Mali. Je pense que ça vient d'une culture aussi, d'une façon de faire.
Aujourd'hui, tu habites à Valdrome depuis un an.
Ouais.
Est-ce que ça traduit cette envie de t'investir plus localement, peut-être de moins bouger aussi ?
Ouais, j'ai toujours eu l'envie de toute façon de m'investir localement dans l'endroit où j'habitais. Avant, j'étais à Chambéry, j'avais monté un projet de création qui a duré 10 ans dans les quartiers populaires à Chambéry-le-Haut, de théâtre, de création de spectacles toute l'année. J'avais essayé de le faire à Voray quand je suis revenu en Isère. La mairie m'a vite signifié que c'était pas l'idée, quoi. Donc, moi, en quittant Voray, je voulais trouver un endroit où j'allais pouvoir investir localement. Donc voilà, là, à Valdrome, je fais du théâtre avec les gens. C'était tous les mardis soirs au bar à coucou, là, à Valdrome. Un atelier ouvert à toute la population, gratuite, les enfants. L'idée, c'est de mélanger les enfants, les anciens, les grands, puis qu'on fasse quelque chose ensemble. C'était hyper chouette. Je pense qu'on reprendra l'an prochain. J'ai fait du théâtre avec les enfants aussi de Valdrome. Et puis, au gîte à Tarsimour, on essaye d'organiser. On a organisé 2 soirées, concerts pour l'instant, une en avril, une en septembre dernier. Et puis, on va continuer toujours. en s'appuyant aussi sur la population, parce qu'à Valdrome, comme dans le DIY, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses.
Un gîte, là, tu parles du gîte de Tarsimour, c'est un gîte donc, dont tu as repris la gestion avec...
Avec Seb.
Avec Seb.
Ouais.
Donc maintenant, vous êtes deux à avoir repris la gestion de ce gîte.
Tout à fait. Alors Seb, est... moi je suis souvent en tournée quand même encore, donc Seb, est... c'est lui qui s'occupe de vraiment faire tourner quand même le gîte, la structure. Et il y a quand même du taf, parce qu'on se rend compte que Valdrome et le Haut-Diois, ça reste assez attirant pour les gens qui ont envie de prendre un peu l'air, là. Donc, ouais, c'est surtout quand même Seb qui gère. Moi, je suis là pour filer le plus gros coup de main possible. J'enregistre les réservations, je m'occupe du terrain du jardin, mais c'est Seb qui taffe beaucoup dans l'accueil des gens. Après, on aimerait aussi voilà, faire de ce lieu un lieu, peut-être pendant l'hiver, de résidence artistique ou d'échange. On essaie de travailler avec des publics plus sociaux que touristiques aussi. Enfin, voilà. Là, on commence tranquillement avec ce qu'il y a. On a beaucoup de demandes au niveau tourisme, mais c'est vrai que je pense que dans 2-3 ans, on va essayer de réorienter un peu l'activité. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne va pas plus accueillir de touristes. Hein. Ça veut dire que peut-être qu'on va essayer de varier l'activité et de la rendre aussi sociale que touristique. Mais je ne sais pas, c'est des idées, il faut réfléchir. Quoi. Mmh. Tranquillement.
Est-ce que pour toi, s'investir localement, c'est une manière de participer à changer les choses dans un sens qui, peut-être dans le sens des valeurs que tu portes ?
Bah, carrément, moi je pense que, comme pas mal de gens qui font ça, je crois que chacun pourrait avoir mission de rendre son village et d'en faire une capitale, quoi. Pas une capitale au sens parisien et avec plein de voitures et plein de monde, mais une capitale de je ne sais pas quoi. Tout le monde a des compétences. Si on les met tous en commun, on peut rendre nos villages les plus beaux du monde, quoi. Pas forcément parce qu'il y a des belles maisons, mais aussi parce qu'il y a des gens qui font des choses, qui se passent des choses, qu'il y a des vrais échanges entre les gens, des vrais trucs. À Valdrome, ça existe déjà, ça. Je veux dire, c'est... En arrivant à Valdrome, on se rend compte qu'il y a une vraie solidarité quand même qui existe entre les gens, une vraie attention, une vraie tolérance. Voilà. Après, chacun ses défauts, chacun ses trucs, mais ensemble, on peut faire des trucs exceptionnels. Ça, c'est clair et net. Et je pense que dans tous les villages de France, les gens en se rassemblant pourraient faire des choses exceptionnelles. Il y en a plein qui le font, hein, de toute façon, déjà.
Dans une de vos chansons, Boulevard Boulégan, les paroles disent « Si l'adversité frappe encore, nous irons changer le décor ».
Ouais.
J'aime beaucoup cette phrase.
Ouais.
Et je me demandais si... C'est de José.
Ah, okay. Bah, José a écrit beaucoup des paroles.
Ouais. Merci beaucoup, José, pour cette phrase.
C'est sûr.
Est-ce que je me demandais si ça représentait peut-être la manière dont vous faites face à l'adversité dans votre groupe ?
Ouais, ben, l'adversité, je pense que quand tu es artiste aujourd'hui, encore plus si tu es indépendant et tout, il y en a forcément. Je pense pas que la culture soit autant en lambeaux qu'on nous l'annonce sans cesse. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Ça fait 20 ans et même déjà avant, j'entendais tout se casse la gueule, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On se rend compte qu'on arrive quand même toujours à trouver des alternatives, qu'il y a toujours quelque chose de possible. Alors, je pense que, bon voilà, si j'étais au gouvernement, moi j'investirais par exemple dans la culture énormément plus. Mais changer de décor, l'adversité, on s'est tapé le Covid. Ouais, il y a un moment donné, si on a voulu continuer notre travail, continuer à jouer, parce qu'on n'a vraiment pas voulu lâcher l'affaire pendant le Covid, il fallait réinventer complètement, il fallait changer les spectacles, il fallait rendre possible en fait
changer la forme des farandoles,
changer la forme des structures, contacter les structures qui étaient encore ouvertes, quoi. C'est-à-dire, il y en avait très peu à une époque, hein. Les écoles, les structures handicapées étaient encore ouvertes. Nous, on a joué pas mal comme ça pendant tous les premiers mois là, de confinement et tout ça. Et puis, réinventer des fois les événements pour que les choses puissent se faire, quoi. Il y a plein d'organisateurs qui n'ont rien lâché et qui ont changé le décor, justement, face à une adversité qui les empêchait de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils l'ont fait d'une manière différente, quoi. Et il y a les choses qui ont continué quand même, malgré tout, même si c'était pas évident tous les jours, ouais, pour tout le monde.
À part la situation sanitaire, est-ce que tu verrais d'autres freins à ton activité ou à votre activité aujourd'hui ?
Ben ouais, il y en a. Enfin, je pense que des freins au fait que les gens se rassemblent, il y en a dans toute la société de partout et de plus en plus. Moi, je pense que avec tout le progrès que ça a pu amener et tout ce que ça a pu amener sans doute de positif, mais tout ce qui est portable, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est télévision, tout ce qui est peur de l'autre, tout ce qui est ultra sécurité, tout ce qui est attentat, tout ce qui est... plein de choses qui font que on dirait que la société, petit à petit, est en train d'amener quand même les gens à rester un petit peu chez eux, à pas trop se rassembler. Voilà, les gens ont toujours besoin de le faire, donc ils le font. Mais je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau-là, en fait. Si on perd ces choses-là, je pense qu'on perd une partie de notre âme d'humain, tout simplement.
Mmh. Ça, c'est des freins quand même assez énormes. Enfin, je veux dire, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément d'impact direct, même si vous y contribuez finalement à votre niveau-là. À votre, en tout cas, niveau de compagnie. Est-ce que tu vois aussi des trucs peut-être plus pratico-pratique ou terre-à-terre, je ne sais pas, le fait de faire du lien. Là, tu parles de monter un projet sur un territoire. Mmh. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous faites face aussi avec ce gîte à des freins très directs?
On a Val-de-Rome. Du coup, c'est vrai qu'en étant en Val-de-Rome, les freins directs, il n'y en a pas beaucoup quand même. Vraiment, réellement. Je ne sais pas, quand on veut faire des événements, le premier, il a été en septembre. On était encore dans une histoire sanitaire assez compliquée, par exemple. Il n'y a pas eu de souci du tout coup, avec n'importe qui, quoi, n'importe quelles autorités, à organiser vraiment quelque chose. Pareil pour le projet théâtre qu'on a monté. Enfin, les gens, moi, j'hallucinais. Quoi. Ça a été du bouche à oreille, ça a été fait vite fait en plus. Je ne savais pas du tout. J'aurais fait ça en Isère, enfin à Vorep en tout cas, j'ai rien contre l'Isère, j'aimais bien. Mais j'aurais fait ça à Vorep il y a 4 ou 5 ans. J'aurais eu 2 ou 3 personnes à la première séance parce que les gens n'avaient peut-être pas cette habitude. Là, j'ai fait ça à Val-de-Rome, première séance, j'ai 17 personnes qui ont débarqué. Organiser des choses dans l'Audiois, je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité. Je pense qu'il y a une habitude plus forte des gens, tout simplement, peut-être. Je ne sais pas d'où ça vient.
Tu évoquais le bar à coucou, donc ouais. Qui est un bar associatif à Val-de-Rome. Est-ce que vous faites du lien avec du coup, d'autres associations? Est-ce que le fait de faire venir du monde, ça s'est passé par le fait de faire du lien avec d'autres associations?
Voilà, on fait forcément un petit peu de lien à Val-de-Rome parce que sur chaque événement ou chaque projet qu'on organise, on s'appuie un petit peu sur la population en place, sur le matériel aussi en place. Bar à coucou, par exemple, nous, on a eu une galère le 23 avril. On a fait... il y avait un concert chez nous, une soirée concert, d'après-midi familial et tout, cirque, machin, plein de choses. Et on s'est tapé le seul jour de pluie là, des 3 derniers mois. Là. Ça a plu toute la journée, c'était l'enfer. Donc la seule solution pour maintenir ce qu'on avait envie de maintenir malgré tout, c'était de le faire au bar à coucou. Donc on a anticipé, on a vu avec eux, ils nous ont prêté les locaux, tout ça. Ça appartient aussi à la mairie d'ailleurs, hein, qu'on remercie. Après, le lien, il se fait pour le matériel, pour tout ça. On tchatche, on échange, on dit ce qu'on a besoin. Souvent, les gens viennent, en fait, filer un coup de main d'eux-mêmes, tu vois. Donc après, oui, on aimerait. C'est ce qui est en train de se passer à Val-de-Rome. Enfin, en tout cas, on sent une volonté vraiment. Il y a plein d'associations à Val-de-Rome, très associatives. On sent vraiment une volonté que les assos se resserrent et travaillent encore plus ensemble, même si ça commence pas mal, ouais. Donc oui, nous, ça passe par cette volonté-là, ouais.
Ça, c'est un besoin, du coup, que vous identifiez, le fait de travailler plus étroitement avec d'autres associations ou d'autres, ou plus collectivement, encore plus que ce que vous faites déjà?
Oui, c'est toujours pareil. Ça, plus t'es nombreux, plus il y a de problèmes. On dit, tu vois, bon, je pense que c'est pas tout à fait vrai non plus. On a l'habitude de travailler entre nous, pas avec Seb, quand on organise des événements. Avant, on faisait déjà des festivals en Isère, à Tulin, par exemple. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler vraiment tous les deux en s'appuyant sur les gens dont on a besoin éventuellement. Je dirais pas que c'est une volonté propre, mais en tout cas, à Val-de-Rome, travailler avec les gens, oui, ça apporte vite parce que les gens connaissent bien le territoire. Nous, on l'a depuis un an, connaissent bien les possibilités, les potentiels, connaissent tout le monde aux alentours, tu vois. Donc, ne serait-ce que pour faire une promo de l'événement, en parler simplement le soir au bar à coucou ou dans le village ou au marché, ça va très vite. Après, les gens en parlent entre eux et puis au final, tu te retrouves avec du monde, quoi. Donc, ouais, je sais pas si je réponds à la question. Mais...
Complètement.
Ok, très bien.
Une question que je me pose en voyant dérouler tout cet amas d'activités, c'est comment est-ce qu'on arrive à combiner à la fois travail, vie associative, vie de famille? Tu as parlé de famille aussi.
Alors, parler de famille, moi j'ai pas d'enfant. Après, bon, ma vie privée, je suis quelqu'un quand même depuis longtemps, tu vois. Le fait de pas avoir d'enfant, je pense qu'on parle à pas mal de gens, ça me libère quand même une certaine place. Comment on arrive à combiner, je sais pas, de temps en temps on fait un petit burn-out, après on se relève. Non, franchement, ça va, faut essayer de prendre soin de soi. Je sais pas, moi j'ai 40 ans, il y a 20 ans j'étais vraiment à fond, là je sais pas, j'ai envie de vivre aussi des trucs pour moi, comme tout le monde, quoi. Je passe des heures au jardin, tu vois, je passe... on combine, quoi, on se débrouille, je sais pas. C'est toujours 1000 fois moins difficile, je pense, qu'un père de famille qui a la pression et qui doit se relever à 5h du mat tous les jours pour aller à l'usine, tu vois, et qui sait qu'il peut pas arrêter parce qu'il va peut-être pas trouver d'autre taf et qu'il est enfermé là-dedans, quoi, je sais pas. Donc, nous, on a la pression des fois un peu quand on monte sur scène, mais franchement, comparé à la pression que c'est à plein de gens, je pense qu'on se débrouille pour combiner et être bien quand même, quoi. De temps en temps, faut savoir lâcher, c'est tout.
C'est quoi les prochains projets des colporteurs de rêve? Petite avant-première pour Erdiwa.
Les prochains projets, c'est, on est vraiment là, on discute en ce moment. Là, on a une nouvelle création qui s'appelle La Tribu du Vent, qui est un spectacle jeune public et familial qui met en scène de manière ludique, sympathique et festive l'impact que la colonisation a pu avoir dans le monde. On parle de colonisation.
De manière ludique et festive?
Ouais, à hauteur de l'enfant. Vraiment à hauteur de l'enfant.
Pas facile.
Pas facile, mais nous, on a déliré. Quoi. C'est l'histoire d'un colon qui arrive dans un village exceptionnel où tout le monde est heureux au fin fond du désert parce que les mecs font juste ce qu'ils ont envie et qu'ils vivent tranquilles, sans pression. Tu vois. Et la légende dit qu'ils sont heureux parce qu'ils ont un fruit, un arbre qui produit des fruits, qu'ils mangent chaque jour. Et le monde entier croit que c'est grâce à ces fruits qu'ils mangent chaque jour qu'ils sont heureux. Donc finalement, il y a une espèce de colon qui arrive pour faire du business, pour acheter tous les fruits et tout. Enfin bref, il les endort complètement. La ville devient complètement horrible et tout. Les mecs sont plus qu'en recherche de produire du fruit, voir de l'argent, s'acheter des bagnoles. Tu vois, un truc très très simple en fait. Mais le spectacle passe hyper bien, on y prend plein de plaisir. Donc là, on vient juste de digérer celui-là parce qu'il était un petit peu compliqué. On est sorti un peu de notre zone de confort dans les créations, dans les parties techniques et tout. Donc voilà, on vient juste de digérer ça. On avait l'idée de faire un concert à quatre. Voilà, quatre personnes, en incluant Claude ou Clem, mais même ça, on n'est pas sûr, en fait. Voilà, je sais pas, on a sorti un nouvel album là, au début de l'année aussi, enfin, début de l'année dernière plutôt, ça passe vite.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Marche ou Rêve, qui est disponible gratuit sur YouTube, par exemple. Marche ou Rêve, l'école porteur de rêve, vous tombez dessus. Voilà, pour les nouveaux projets, c'est ça. On n'a pas trop de projets de voyage, là, vraiment. Moi, personnellement, j'ai vraiment le projet de continuer tranquillement à faire des choses à Valdrome et dans les alentours, quoi. Voilà, là, on a lancé le théâtre cette année avec la population. C'était vraiment chouette. Je pense qu'il y a moyen de créer des beaux spectacles avec ces gens-là, autant adultes qu'enfants, qu'anciens. Et puis, peut-être de le tourner un peu dans l'Audivois avec la population de Valdrome. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai des projets un petit peu plus sur l'Audivois, là, maintenant. Le reste des projets, c'est continuer à tourner. On a une belle tournée, quand même, cet été, qui on va un petit peu partout. Donc, voilà, continuer à bosser tranquille.
Quand tu parles de lancer le théâtre avec les gens, c'est quoi ? C'est sous forme d'atelier, du coup ?
Ouais, c'est un atelier là, qui avait lieu tous les mardis soirs, enfin mardi fin d'après-midi, à la sortie de l'école. Les enfants se ramènent, il y a des parents qui peuvent venir, des anciens, donc on se retrouve une petite quinzaine. Ouais, des jeux, des exercices théâtraux, des exercices d'improvisation, des exercices qui vont faire bosser aux gens un petit peu tous les aspects qu'on peut avoir dans le théâtre, quoi. L'utilisation de la voix, la gestion de l'espace, tout ça. D'une manière plus que le porteur de rêve que théâtral, quoi. C'est-à-dire un théâtre peut-être plus saltimbanque qui va s'appuyer comme quand on écoute la chanson à la ville comme à la scène. Nous, on aime bien mettre en scène la personne telle qu'elle est, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis sur scène un petit peu comme je suis dans la vie. Simplement, j'exagère peut-être un peu plus tous mes côtés, tous les côtés que je peux avoir. Quoi. Comme les mecs qui font du clown, des fois, ils parlent d'eux, de leur personnalité, tu vois. Et puis, en exagérant certains côtés de leur personnalité, ils se font une espèce de personnage de scène. Nous, on travaille vachement comme ça sur scène, nous même dans nos spectacles, donc c'est aussi la chose qu'on peut mieux transmettre et le mieux apprendre aux gens. Donc dans nos ateliers, ouais, il y a toute cette dimension là quand même. On joue pas forcément avec des costumes, on joue pas forcément maquillé, on joue pas forcément quelqu'un d'autre que soi, en fait, tu vois.
Comment ça se passe très concrètement si on a envie de s'inscrire à cet atelier? Combien ça coûte? Où c'est?
Ben, c'est gratuit, c'est à Valdrome au bar à coucou. C'est tous les mardis, c'était tous les mardis à 10, non, je sais pas de conneries. 17h, c'est tous les mardis à 17h au bar à coucou jusqu'à 18h30. Donc oui, il y a tout le monde qui était bienvenu. Je pense qu'on va relancer. Alors, il y a une demande des gens là pour qu'on relance à l'automne. Ce serait plus pratique parce qu'il y a plein de gens qui sont en saison à partir d'avril, mai, juin. Ça taffe dans les champs et tout. C'est plus compliqué pour tout le monde de venir. Mais je sais pas si on va le relancer tout de suite en 2022. Je pense qu'en 2023, il y aura. Et puis, on fera comme d'habitude la petite promo. On mettra des affiches à droite, à gauche. Mais c'est vrai que c'est pas une promo qui sort trop de Valdrome ni des alentours. On a des gens des autres hameaux. On a des gens de Saint-Dizier, tout ça qui descendent. Mais ouais, ça se refera en 2023, je pense.
Et par ailleurs, donc là, tu parlais d'un spectacle que vous faites, vous en avez plusieurs. Est-ce oui. que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les autres spectacles que vous proposez?
Donc on a La Tribu du Vent, qui est notre nouvelle créa. On a Boulevard Boulégan, qui est en fait un spectacle, notre spectacle concert. Donc, c'est-à-dire un concert, un enchaînement de chansons animées, mis en scène entre théâtre et cirque aussi. Qu'on a beaucoup tourné ces dernières années, notamment pendant le Covid, qu'on avait réadapté pour que ce soit possible de partout. Après, on a un autre spectacle jeune public qui s'appelle Ournec le Troubadour, qui est entre théâtre, musique, art du cirque, qui est sans doute notre spectacle le plus ancien, qu'on tourne depuis très longtemps, puis peut-être le plus, un peu plus poétique, un peu plus joli, un peu plus esthétique aussi, notamment au niveau des décors, tout ça. Voilà. Et puis, on avait un autre ancien spectacle qui s'appelait À la ville comme à la scène, d'où la chanson qu'on a arrêtée, qu'on ne joue plus.
Ok. Si on veut vous contacter ou avoir des informations sur vos spectacles, où est-ce qu'on va?
Comment
on
vous contacte? Il y a le site internet, www.colporteurderêve.fr. Voilà, là, il y a toutes les infos. Il y a le mail, il y a le téléphone, il y a les vidéos, il y a tout ce qu'on peut proposer qui n'est pas trop mal mis en ligne. Ouais.
Donc, si j'ai la grange de ma grand-mère, je ne sais où, et que je veux y organiser un super spectacle des colporteurs de rêve, c'est possible?
Ah bah, carrément, ouais. Carrément, les granges des grand-mères, on y va régulièrement quand même, franchement. Plus qu'on croit.
Merci beaucoup pour toute cette présentation, cette actu et ces rebonds et cette énergie.
Avec plaisir.
On vous souhaite une très bonne continuation et puis à très bientôt sur peut-être aussi les ondes de Verdivoix avec de la musique.
Carrément.
Salut. Ciao.
cité, à chaque coin de chaque rue, des dunes s'offrent au soleil à perte de vue. Là dans ma cour, un arbre a mangé l'horizon. Aux alentours, son parfum défie la raison. En haut des branches, on voit grimper des enfants. Les oiseaux y fredonnent mille refrains dans le vent. Dans toute la ville, les regards se croisent et s'accrochent. Une amitié pour chaque sourire qu'on décoche. Parfois mes pieds m'emportent jusqu'au marché. Y'a des odeurs, des couleurs, je me fais bousculer. Toutes les langues de la terre chantonnent dans mes oreilles. Mes pieds se mettent à danser sous le soleil. Depuis pas très longtemps on voit passer des camions. On construit des ponts, des routes, des maisons, des prisons. On entend moins le vent ou les oiseaux chanter. Mais bon, personne ne semble s'en inquiéter. Je me sens un peu seul sur la place du village. Y'a plus que ceux qui sont trop vieux ou qu'ont pas encore l'âge de courir à l'usine derrière le temps qui s'enfuit. Plus personne n'aurait l'idée de partager un fruit. Les fumées des voitures obscurcissent le soleil. Le matin je n'entends plus que les machines ou mon réveil. Dans la ville les regards se fuient, ne se parlent plus. À croire qu'on ne fait plus partie de la même tribu.